Chapitre 6. La mère Chardonneraux cherche du travail. « Voulez-vous entrer à mon service comme femme de ménage ?» lui propose Louise. « Elle est sans bonne encore une fois. Jeanne, enceinte, vient de quitter l'hôtel. Et Louise ne veut plus de jeunesse, c'est trop coureur. » Cette place, la mère Chardonneraux la convoite depuis longtemps. « Ma foi, je sais pas trop, l'ouvrage est dur chez vous, » répond-elle d'une voix traînante. « Faut que j'en parle à mon vieux. »« Comme donnez-vous, réponse ?»« Après le déjeuner. » Vers 2 heures, le couple Chardonneraux arrive dans la boutique. « Alors ?» demande Louise. La mère Chardonneraux pousse son mari du coude. « Parle, Polyte !» « Ben, ma bourgeoise, dit Hippolyte, elle trouve que c'est mal payé. Écoutez-moi un peu, la patronne. Nous sommes 4 au jour d'aujourd'hui, dans une famille nombreuse. » La mère Chardonneraux, les paupières baissées, les bras croisés sur le ventre, branle doucement la tête. La discussion s'éternise. « On vous donnera 50 francs de plus et le casse-croûte, tranche le couvreur. Ça va ?» Top, allez boire le jus. La mère Chardonneraux descend travailler vers 7 heures. Elle s'installe devant un verre de vin rouge et casse la croûte en écoutant les racontars des cochers de la touche. L'odeur du fumier qu'ils apportent avec eux lui rappelle le pays. Eh bien, vous dormez, lui crie Louise. Elle ramasse son attirail et disparaît. Le bruit de ses sabots qui résonne dans l'escalier tire du sommeil des locataires paresseux. Oh là là, mère coupe de tampons! Elle agite son trousseau de clés, ouvre les chambres une à une et bâcle son travail. Elle balaie, secoue les puces au traînard. De ses longs bras ouverts comme des cisailles, elle retourne un matelas. Lave les cabinets en y lançant de grands coups d'eau à la volée, puis s'arrête. « Ça, je dis pas que je me crève, » grogne-t-elle en s'asseyant sur toutes les chaises qu'elle rencontre. Dès que les clients sont partis, elle se sent chez elle. Elle peut fouiner à l'aise. Elle plante là son matériel. L'oreille tendue sur les bruits de l'escalier, elle s'attarde dans les chambres des jeunes gens. Lit la correspondance, ouvre les armoires, les tables de nuit, et y fait des découvertes. Fioles, cartes à jouer, peignes crasseux, souvenirs de toutes sortes qui puent le tabac, la pharmacie et la punaise écrasée. Et de là, elle passe chez les femmes, chez la belle Raymonde, chez Fernande. « Quel putain !» marmotte-t-elle en regardant leur robe. Dans les tiroirs gluants, des bâtons de rouge, des flacons, des démêlures de cheveux, de la vaseline, de l'ouate. Elle ricane, et le reste. Partout la même chose, du linge à ne pas toucher avec des pincettes. Elle connaît en détail les secrets de chacun, sauf ceux de M. Adrien, qui garde sa clé. Mais celui-là finira bien par apprendre ce qu'il manigance, et alors... Personne ne peut la souffrir. Les clients regrettent Jeanne. Il singe la mère, coup de tampon et ses manières paysannes, sa démarche le jour où elle a bu un verre de trop. Elle se venge en sabotant son service. Les pourboires deviennent rares, mais peu lui importe, elle les prélève elle-même en faisant les chambres. Et si un locataire lui fait une observation, elle descend, tout droit, trouver la patronne. « On manque de respect, glapit-elle. Vos jeunes gens, c'est pourriture et compagnie. Moi, madame le couvreur, si j'étais maîtresse ici, je les foutrais tous dehors. » Mais le soir, elle déclare à son mari, « Cet hôtel-là, c'est la maison du bon Dieu. On aurait tort de pas en profiter, Polyte. » Il était 10 heures du matin. Louise vaquait à ses petites affaires. Le couvreur et Julot, l'éclusier, parlaient des agrandissements de la gare de l'Est. Soudain, un homme, au visage barbu et renfrogné, entra dans la boutique. « Servez-moi un café, » commanda-t-il. Il s'accouda au comptoir et écouta la verbiale de Julot, et dès que l'églusier fut parti, il fit un petit signe à le couvreur. « Je suis inspecteur de la sûreté, » déclara-t-il en touchant son chapeau melon du bout du doigt. « Ah ? » fit le couvreur. Louisa avait dressé l'oreille et elle cria « Qu'est-ce que c'est ?»« Chut !» fit l'inspecteur. « Vous avez ici un certain monsieur Adrien ?»« Oui. » « Adrien, comment ? Faites-moi voir votre livre de police. » Louise ouvrit le registre et tourna quelques pages. L'inspecteur sortit un calepin de sa poche, prit des notes. « Montrez-moi la chambre de ce monsieur, » commanda-t-il sèchement. Louise lança un regard affolé à son mari qui froissait un torchon entre ses doigts. Elle tremblait en prenant son passe-partout. Ils montèrent au premier, Louise ouvrit la porte du 5. L'inspecteur renifla. Ça sent une drôle d'odeur. On brûle du parfum à cause des écuries de la touche. » Il laissa tomber sur Louise un regard glacial. « N'avez-vous jamais rien remarqué d'insolite dans la conduite de votre locataire ?»« Non, c'est un garçon sérieux. Tenez, on ne lui connaît pas une maîtresse. Il reçoit beaucoup de visites. Oui, des amis. » « Et quand il reçoit jamais d'esclandre ?» Louise hésita. « Non, » répondit-elle d'un air embarrassé. Après une discussion violente, Adrien venait de se brouiller avec ses amis du métro. « Il travaille ?»« Oh, je vous crois, oui, même qu'il a une bonne place. »« Ah ah !» fit l'inspecteur surpris. Il ferma son calepin. « Pas un mot de cette histoire, n'est-ce pas ? » dit-il en s'en allant. Louise descendit inquiète. Depuis le temps qu'il tenait l'hôtel du Nord, jamais il n'avait eu la visite de la police. Elle mit le couvreur au courant. Puis elle s'assit. La semaine dernière, elle avait reçu une lettre anonyme. On lui écrivait que son mari fricotait avec une cliente. Elle fronça les sourcils. « Il y a quelqu'un qui veut nous faire des ennuis, » murmura-t-elle. « Faut que je me méfie. » Le premier jeudi du mois, vers les 11 heures, Louise déclarait « On ne va pas tarder à voir paraître le père de Borger. C'est son jour de sortie. » Le vieux entrait dans la boutique, l'air accablé. Il était vêtu d'un uniforme bleu, terne et grossier comme une défroque militaire. Il portait une casquette cirée de crasse, des brodequins ferrés. Badour se jetait sur lui en aboyant. « Ici, Nono !» criait Louise. « Il vous reconnaît, père de Borger !» Elle lui tendait la main. « Alors, ça va ?» Le père de Borger s'appuyait sur sa canne et s'asseyait avec des mouvements précautionneux. Il déboutonnait son col de chemise, soufflait, tirait de sa poche un mouchoir à carreaux et s'essuyait le front en répétant « Quelle trotte, mon Dieu, quelle trotte !» Louise lui servait, comme autrefois, un petit bordeaux rouge et le laissait rêvasser devant son verre. Il buvait de temps en temps une gorgée. Tassé sur lui-même, les bras pendants, il regardait les flacons bariolés qui s'alignaient derrière le comptoir. « Encore de nouveaux apéritifs, » se disait-il. La boutique était pleine de clients. Quelques jeunes gens débitaient des blagues. Toujours le même remue-ménage. Seulement, lui, il ne connaissait plus personne. Dago, Quenelle, Maltaverne, Mimard, tous les manieurs avaient quitté l'hôtel. Le mois dernier, par hasard, il avait revu Julot, qui était monté en grade. Achille était mort, et Ramillon, le Merlan. Louise l'arrachait à sa rêverie, à table. Elle avait préparé un bon repas. Le père de Borger s'asseyait près du poêle, à côté de Badour. nouait sa serviette autour de son cou, posait ses vieilles mains sur la table et regardait le patron découper la viande. Louise lui tendait le plat. Il se servait, cassait son pain en petits morceaux et lentement commençait à manger. Mais bientôt il chipotait. « Buvez un coup !» conseillait le couvreur. Louise s'interposait. « Ne le presse pas, toi. On a tout son temps. Pas vrai, père de Borger ?» Il levait sur elle ses yeux ternis et la bouche pleine bredouillait. « Bon, c'est pas à Nanterre qu'on mange comme ça. Allez, reprenez de la salade. Là-bas, continuait-il, on est plus mal nourri que des soldats. Le vin, c'est pas du vin, c'est ni le tabac, ni rien. » Il poussait un soupir. « Ah, si on m'avait dit autrefois, père de Borger, vous finirez vos jours dans un asile. Heureusement, on a des jours de sortie. » Le repas terminé, le couvreur lui offrait une fine, une cigarette, et il restait près du feu, bavardant avec Louise, regardant la bonne qui débarrassait la table, hasardant des questions. Bon, « vous n'avez plus votre femme de ménage ?» Louise secouait la tête. « Ne valait pas renée, hein ? Oh, une bonne fille renée, l'évêque, c'était de bon temps !» Le couvreur lui donnait une autre cigarette. Et le vieux ragaillardi racontait alors par le menu des histoires de l'asile. Et tout à coup, il jetait un coup d'œil sur la pendule. D'un geste maladroit, il prenait sa canne et sa casquette. « Ça ne dit pas que je rentre en retard, parce que alors, fini les sorties. » Il resta plusieurs mois sans venir. Un jour de printemps, Louise le vit entrer dans la boutique. « Ah, oh, je vous croyais mort, » dit-elle. Le père de Borger ferma les yeux. « Oh, j'ai encore eu une attaque !» Il fit quelques pas en traînant les pieds. Ses vêtements flottaient sur son corps. Son visage avait une couleur terreuse. Louise l'aida à s'asseoir. « Mais fallait nous écrire, voyons !» Écrire, mais les timbres. Je vais vous faire un déjeuner qui vous ravigotera. Elle lui tendit le journal. Lisez le petit Parisien en attendant. Mais le vieux n'avait plus de lunettes. Il regarda le carrelage, la tête penchée sur l'épaule, la bouche entrouverte. Bientôt, ses paupières battirent, il s'assoupit. Louise l'éveilla pour l'installer à table. Elle dut lui couper sa viande. « Forcez-vous un peu, » répétait-elle. Le vieux restait le nez sur son assiette. Il demanda à revoir son ancienne chambre. Oh, « Vous ne la reconnaîtrez plus ?» Il balbutia. Oh, « Ça fait rien, ça fait rien. » Après le café, on le leva. Appuyé sur le bras du patron, il monta péniblement au deuxième. Le couvreur lui ouvrit la porte du 27 et lui cria à l'oreille « Mais vous voilà chez vous !» Le père de Borger regarda le patron d'un œil inquiet. « Je m'y retrouve plus. Le lit était là-bas. Ici, il y avait une table pliante. C'était pratique. » Il toucha le mur. « Mais il n'y a plus de papier ?» « Non, non, c'est peint au ripolin, à cause des punaises, » répondit le couvreur. Il lui tapa doucement sur l'épaule. « Allons, venez !» Ils descendirent. « Je vous ai préparé un casse-croûte, père de Berger, » lui dit Louise en lui fournant un paquet dans sa poche. Elle lui glissa 10 francs dans la main, lui arrangea sa veste dont le col bâillait. « Au revoir !» Et n'oubliez plus de revenir !» Ce matin-là, le canal était accablé de soleil. Le couvreur baissa le store, prit une chaise qu'il plaça sur le pas de la porte, alluma une cigarette et s'assit à califourchon. Près du poste vigie, 4 hommes regardaient vers l'hôtel du Nord. « Des types de la police !» se dit le couvreur. Il parlait avec animation. Au bout d'un moment, ils traversèrent la rue, s'arrêtèrent devant la cour de la touche, et l'un d'eux déplia un plan. Le couvreur était tout oreille. Une pensée subite lui traversa l'esprit, l'expropriation. À force d'entendre rabâcher là-dessus, il était devenu sceptique. Et pourtant, depuis que les lignes du chemin de fer de l'Est aboutissaient au canal, on construisait beaucoup dans le voisinage. Une société, le cuir moderne, était entrée en pourparlers avec les propriétaires de cette partie du quai de Jemmapes. Deux hommes mesurèrent avec une chaîne d'arpenteur la distance comprise entre la rue Bichat et l'hôtel. Ils s'arrêtèrent à côté de le couvreur qui se leva. « Pardon, messieurs, » dit-il d'une voix hésitante, « je suis le patron de l'hôtel du Nord. C'est-il vrai qu'on doit m'exproprier ?» L'un des deux hommes regarda la façade, fit la moue et grommela « Oh, vous préviendra en temps utile. » Le couvreur s'emporta. « Mais vous croyez que je vais me laisser mettre à la porte? J'ai des intérêts. » Ses interlocuteurs lui tournèrent le dos, sans répondre. Alors il rentra précipitamment chez lui. « Louise, Louise » cria-t-il. Sa femme accourut. « Qu'est-ce qui t'arrive? T'as le feu au cul ? On va nous exproprier. Je viens d'avoir une altercation avec des architectes. » Il bégayait. Il entraîna Louise dehors. « Regarde les voir. Oh, ça n'ira pas tout seul. » Il était blême. Il ne rentra que lorsque le groupe eut traversé le pont tournant. Un mois passa. Le couvreur avait presque oublié cette alerte. Un jour, à l'improviste, le propriétaire vint lui annoncer officiellement qu'on l'expropriait et qu'il avait vendu, lui, son terrain au cuir moderne. Le couvreur ricana. « Arrangez-vous comme vous voudrez. Mais moi, vous entendez, je ne partirai pas. Mon bail. » « Écoutez-moi un instant, » interrompit le propriétaire. « Votre bail finit bientôt, n'est-ce pas ?» Et posément, il expliqua à le couvreur tous les avantages qu'il pouvait, en s'y prenant bien, retirer de cette affaire. « Que diable ! » s'écria-t-il, « enfin, ça vous dit rien d'être entier ?»« Ben, ça serait bien notre tour, » murmura Louise. Le couvreur prit conseil de son beau-frère et de quelques vieux amis. Il était encroûté. Autant il avait montré d'audace pour acheter son hôtel, autant il était inquiet aujourd'hui à la seule pensée de quitter le quai de Jemmapes. « Ben, tout ça, Émile, c'est du sentiment, » lui répondit-on. Il alla voir le gros Latouche, qui se trouvait dans le même cas. « Me laisse faire, » déclara le camionneur. « Il paie le prix fort, rien à dire. Dès que j'aurai touché mon pognon, je retournerai au pays et... Bonsoir tout le monde !» Le couvreur, ballotté entre des avis contraires, finit par donner son acceptation. Quel soulagement! Mais il n'était pas au bout de ses ennuis. « Où voulez-vous que j'aille à mon âge ?» gronda Pélican, hargneux comme un chien qu'on dérange du coin du feu. Le père Louis cria « Mais vous êtes des spéculateurs !» Louise les apaisa, leur trouva deux chambres rue de la Grange-Aubel à l'hôtel du Bon Coin. Pluche fut le seul à accepter joyeusement son congé. « Ben, ça tombe bien, » annonça-t-il. « J'allais vous quitter. Je vais gérer un bistrot à Montrouge. Faut se caser, bon Dieu, sur ces vieux jours. » Un dimanche, il empila ses meubles et sa batterie de cuisine dans une voiture à bras, dit adieu au le couvreur, se colla entre les brancards et démarra gaiement. Pour les jeunes gens, tous les hôtels se valaient. Ils partirent l'un après l'autre, indifférents, leurs valises à la main. Les ménages, empêtrés de leur fouillis, eurent plus de peine à se débrouiller. « Non, vous pressez pas de partir, la maison est encore solide, » leur disait Louise. elle assistait, mélancolique, à cet exode. Elle traînait sans but la gorge sèche, dans les couloirs, dans les chambres, où chaque objet lui rappelait un effort. Tout était déjà couvert de poussière. Le bruit d'une porte qui claquait au vent la faisait sursauter. Alors la solitude l'angoissait, et elle descendait retrouver son mari. À une table, le couvreur assis, ses livres de compte ouverts devant lui, se livrait à des calculs. En voyant entrer sa femme, il posait son porte-plume, ôtait ses lunettes, et pour la centième fois disait « Bon, on roulera pas sur l'or, mais on aura une petite vie tranquille. » Et il ajoutait, fier de lui, « J'ai bazardé tout à l'heure une douzaine de couvertures à un youpin. » Afin de liquider son matériel, il avait mis quelques annonces dans les journaux. Il vendait ainsi à bas prix des bricoles, du linge, mais n'arrivait pas à trouver acheteur pour le plus gros, les chaises, les tables, les armoires. Finalement, il accepta les offres d'un brocanteur. Le lit de milieu du 40, les chambres du pitch-pain du 14, du 21, du 25, les lits à boules de cuivre, les tables tout chênes, le comptoir, qui faisait son orgueil, celui de Louise, prirent le chemin du marché aux puces. L'hôtel du Nord fut livré à un entrepreneur de démolition. Des ouvriers arrachèrent les fils électriques, les tuyaux de plomb, enlevèrent les portes, les fenêtres, démantibulèrent la maison pièce à pièce comme une machine et entassèrent le matériel dans la cour de la touche. Louise sortait pour les regarder travailler et soupirait. « Allons, la patronne, disait un ouvrier, faut vous faire une raison, votre boîte, elle est vieille. »« Bon, je sais bien, répondait-elle. Elle rentrait dans la boutique. Là aussi, tout était en désordre. Des déménageurs clouaient des caisses, vidaient les meubles. Émile avait loué près des buts de Chaumont un logement où il couchait chaque soir. Elle y faisait porter ses affaires, mais les détails de l'emménagement excédaient ses forces, et c'était son mari qui s'occupait de leur nouvelle installation. Un matin, l'entrepreneur lui dit qu'il ne fallait pas rester là. Les ouvriers allaient attaquer la maçonnerie. Docile, elle traversa la rue, s'assit sur un banc du poste vigide où l'on voyait l'hôtel. C'était une bâtisse en carreaux de plâtre et en vieille charpente. Les ouvriers, une chanson aux lèvres, armés de piques et de masses, abattaient des pans de murs qui s'écroulaient avec fracas. Des plâtras tombaient dans la cour, et comme la neige recouvrait deux camions abandonnés par la touche. L'escalier, les couloirs ouvraient leurs gueules sombres. Ils en sont au 28. Les voilà au 27, murmurait Louise. Tiens, les voici chez Pélican. Elle reconnaissait chaque chambre à un détail, à la couleur d'un papier qu'elle avait choisi. L'hôtel lui apparaissait divisé en étroits compartiments comme une ruche. Elle s'étonnait que 60 personnes y eussent vécu. Elle voyait son effort des dernières années anéanti. Son passé s'en allait par morceaux. Elle retrouvait des noms de locataires, des souvenirs attachés à chacun d'eux. « Je deviens folle, » balbutiait-elle, et elle passait la main sur son front moite. Le quatrième jour, l'entrepreneur fit attacher des cordages au mur qui demeurait debout. Un, deux, les ouvriers tiraient pendus aux cordes, tiraient de toute leur force. Brusquement, d'un seul coup, les murs du premier étage s'écroulèrent. Louise poussa un cri et se précipita en avant. Un nuage de poussière blanche l'aveuglait. Elle trébucha sur des pierres, cherchant en vain à reconnaître l'emplacement de sa chambre parmi ses ruines. Vous n'avez donc jamais été à la guerre, lui dit l'entrepreneur. Allez-vous-en, ma petite dame, qu'on en finisse. Il la chassait comme une intruse. Elle s'éloigna sans répondre. Louise dut s'habituer à son nouveau logement. Les chambres étaient petites, un peu tristes. Elle s'y installa sans entrain. « Sors, au lieu de ruminer !» conseillait le couvreur. Lui, il faisait le rentier. Il allait souvent pêcher au canal et il rapportait des nouvelles du quai de Jemmapes. « Viens avec moi, Louise, proposa-t-il un après-midi. Tu verras quels travaux ils ont fait là-bas depuis notre départ. » Elle regarda la fenêtre qu'éclairait faiblement le soleil d'hiver. « Je veux bien. » Et s'enveloppant les épaules d'un fichu, elle le suivit. « Le cuir moderne construit des bureaux fantastiques, tu sais, » commença le couvreur. « Mais fiche-moi la paix avec ces gens-là. » Ils arrivèrent au coin de la rue de la Grange-aux-Belles. Le couvreur entraîna sa femme vers le canal et ils entrèrent dans le square qu'attristaient les arbres défeuillés. On agrandissait l'écluse. Alentour, le sol était détrempé. Des camions s'embourbaient et les conducteurs, en jurant, descendaient de leurs sièges. « Je ne reste pas là, » déclara Louise. Ils s'assirent plus loin, bien à l'écart, sur un banc. Devant eux s'étendaient les chantiers du cuir moderne, un enchevêtrement de charpentes en fer, des amas de briques, moellons, pierres de taille. Deux grues projetaient leurs tentacules au-dessus de ce matériel, s'en emparaient, le balançaient dans l'air, puis avec un bruit de chaîne, le déposaient à pied d'œuvre. Louise demeurait silencieuse. « C'est comme si l'Hôtel du Nord n'avait jamais existé, » pensait-elle. « Il n'en reste plus rien, pas même une photo. » Elle baissa les paupières. De toutes ses forces, elle chercha à se représenter son ancien domicile, les murs gris, les trois étages percés de fenêtres, et plus loin, dans le passé, le temps qu'elle n'avait pas connu, où l'hôtel n'était qu'une auberge de mariniers. Le couvreur se pencha vers elle. « Alors, qu'est-ce que tu dis de ça ?» Le bras tendu, il montrait l'armature du cuir moderne qui arrivait déjà à la hauteur d'un troisième étage. Fin.